Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour à toutes et à tous. On continue à suivre le SIEC sur Radio Immo, Radio Territoria. Et nous avons la chance d'avoir sur le plateau Radio Immo, Radio Territoria, Benjamin Bocara, qui est directeur Retail Leasing Paris, pour la ville de Paris, chez JLL. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors JLL, un petit rappel, l'un des leaders mondiaux du conseil en immobilier d'entreprise, accompagnant investisseurs, propriétaires et utilisateurs dans les domaines du conseil, de la transaction, de l'investissement, du property management, également de l'immobilier commercial. Donc après plusieurs années de transformation du secteur, Benjamin, quel regard vous portez aujourd'hui sur la santé du marché du commerce en France et plus particulièrement à Paris ?
Oui, alors je vais pouvoir vous répondre sans difficulté sur Paris puisque c'est là où mon équipe intervient.
Bien sûr.
Pour vous préciser d'ailleurs le scope, puisque tout le monde n'a pas le même, Paris aujourd'hui ça représente 62 000 commerces de pieds d'immeuble. Ce sont les sites officiels, sur les chiffres officiels sur les villes de Paris. Et sur le scope qui est le nôtre, celui de JLL, on a cartographié 70 rues, on est à 60 pour l'instant, on va arriver à bientôt à 70, qui regroupent à peu près 10% oui. des commerces de la capitale. Ça veut dire que sur 1% des rues de Paris, vous avez une concentration telle de commerces, où quasiment tous les pieds d'immeubles sont garnis, qui représentent à eux seuls 10% de l'ensemble des pieds d'immeubles de Paris, sur 1% des rues. Et c'est ce scope-là sur lequel on travaille et sur lequel on accompagne, effectivement, comme vous le disiez, les investisseurs bailleurs, et les enseignes. Ce périmètre-là, qui représentera à terme 70 rues, c'est le lieu où les Parisiens, les touristes, les Franciliens se rendent principalement pour faire du shopping, pour découvrir une expérience.
Ces grandes artères, ça reste vraiment les locomotives du commerce à Paris ?
C'est les locomotives du commerce à Paris. Elles se sont confirmées sur l'après-Covid. On a une dichotomie très claire entre le marché principal qui représente ces zones dont on vient de parler, et l'autre marché qui est plutôt un marché résidentiel, secondaire, sur lequel la consommation est totalement différente. Sur les premiers dont on a parlé, il est essentiellement constitué des zones touristiques internationales. On a énormément d'étrangers qui viennent, et d'ailleurs les chiffres du tourisme ont montré que Paris restait extrêmement attractif. Et quand vous venez d'ailleurs pour visiter Paris, la rue en elle-même fait partie de l'expérience d'achat, puisque vous êtes dans une ville, n'aime pas le dire, mais un peu musée, qu'il est agréable de regarder rien que sur son architecture, et qui est le début de votre expérience d'achat. Donc le retour que moi j'ai à faire, en tout cas sur Paris, est extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on a une très forte dynamique de marché, des recherches qui restent importantes, alors on peut se dire peut-être qu'elles sont moins importantes qu'avant, mais en tout cas elles sont suffisamment importantes pour se retrouver confronté à un marché qui est saturé et qui ne leur propose pas suffisamment de place.
Alors justement, j'avais envie de vous dire, vous qui accompagnez chez JLL quotidiennement hein, des enseignes dans leur stratégie d'implantation, comment on fait pour trouver les bons emplacements ? Quels sont les emplacements les plus recherchés ? Si vous nous le dites, dans ces 70 rues de Paris, quels sont les critères qui font la différence ?
Les critères qui font la différence, en tout cas, le critère numéro un, c'est la localisation.
C'est ça. Hein ?
On parle d'emplacement numéro un, ou alors on parle du prime, on parle d'emplacement 1 bis quand on est sur une perpendiculaire de flux naturel, et on parle d'emplacement numéro 2 quand on doit aller vers vous pour vous trouver. C'est-à-dire qu'on ne se trouve pas sur une trajectoire classique au milieu d'autres enseignes. Les critères qui sont les plus demandés, ce sont donc la localisation. Je suis par exemple un joaillier, je veux absolument être présent, joaillier de luxe, je veux être absolument présent dans l'hypercentre du luxe, l'épicentre du luxe qu'est la place Vendôme.
C'est ça, autour de la place Vendôme. Mais
exactement.
Faut trouver.
Eh bien, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là.
Mais est-ce qu'il y a encore, justement, est-ce que ça devient compliqué aujourd'hui ?
Ça l'a été depuis longtemps. Ça l'a été depuis longtemps avec un marché qui a énormément fonctionné. Alors déjà, il faut revenir, on va faire un petit retour en arrière puisque Paris a évolué au gré aussi de son activité touristique. Mm-hmm. Ça a toujours été une ville de tourisme fort. Mais à partir de 2008, il y a eu un flux très important de touristes qui est arrivé d'Asie, qui n'était pas si évident auparavant. Hein, pour les Chinois notamment, ça n'était pas si simple d'obtenir leur visa. Ces procédures administratives ont été extrêmement facilitées et ça a permis à énormément de touristes asiatiques de venir sur Paris. C'est ce qu'avait anticipé LVMH en ouvrant Louis Vuitton, contre toute attente, sur les Champs-Élysées, bien avant que ce tourisme ne devienne très fort. Et aujourd'hui, ça devient difficile pour les enseignes de trouver des emplacements, puisqu'elles veulent toutes être au même endroit. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la localisation qui fait votre couverture, votre visibilité, et ensuite, pas simplement le flux, mais aussi toute la, comment dire, l'identité de chaque lieu, qui nous donne une idée par les enseignes qui se trouvent dans l'environnement immédiat de est-ce qu'on est sur une parcelle qui adresse un positionnement luxe ou mass market ou un secteur sur lequel on a un cluster, j'ai envie de dire, une hyper spécialisation liée à une activité. Je prends un exemple. Vous alliez il y a 20 ans sur la place des Victoires, vous aviez des marques haut de gamme, des marques de prêt-à-porter haut de gamme. Vous y allez aujourd'hui, vous retrouvez essentiellement des marques d'équipement de la maison. Il y a quelques cas particuliers isolés, comme l'arrivée récente d'Ami, mais oui. Globalement, on reste sur un cluster hyper spécialisé qui va donner le signal que si vous cherchez un positionnement plutôt premium sur l'équipement de la maison, vous allez aller Place des Victoires. Vous allez avoir la même chose avec la rue Étienne-Marcel, où je vais retrouver énormément d'équipements sportifs avec Shinzo qui a pris plusieurs emplacements. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. On pourrait citer le tronçon vers la rue Saint-Roch de la rue Saint-Honoré, où là on est dans une hyper spécialisation de parfumeur de niche, identique à celle de la rue des Francs-Bourgeois. Donc on a des phénomènes vraiment de contraction autour de secteurs d'activité.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, une marque forte peut créer un cluster à un autre endroit ?
Elle peut. C'est le cas de Pollen, par exemple. Ouais. C'est arrivé, on a vu Pollen arriver sur la rue de Richelieu, où on a une commercialité, j'allais dire, à 50%, puisque l'autre partie est occupée par un bâtiment historique. Donc, Pollen est arrivé là et a créé sa propre zone d'attractivité qui a amené derrière Margiela ou Kitsune. Et on voit que c'est le même phénomène aussi de Pollen qui est venu redonner un peu d'éclat au rond-point des Champs-Élysées qui avait l'air d'être le parent pauvre à l'est des Champs-Élysées ou au début de Montaigne. Donc il y a des marques qui sont capables de créer cet effet d'attractivité et leur propre commercialité.
Alors les consommateurs aujourd'hui recherchent davantage d'expérience que de simples achats. Comment cette évolution influence la conception des boutiques et le choix des enseignes ?
Ah, alors elles ont déjà pris le parti de regarder des lieux de vente qui seraient, comme on le dit, des lieux d'expérience. Mais si vous voulez un lieu d'expérience, il vous faut à la fois avoir une ambiance, du volume, un certain nombre de mètres carrés, tous n'étant pas affectés à de la vente, mais à des espaces de vie. Par exemple, je vais rajouter un concept de restauration café chez Arquette pour H&M. Donc ce sont des lieux de vie dans lesquels on va pouvoir se poser, pas simplement être dans une enfilade de produits qui sont suspendus. On va être dans un lieu où on va déambuler, où on va avoir des interfaces, on va avoir des objets de décoration. On le voit beaucoup dans le luxe, il y a des œuvres d'art qui sont déposées. On l'a vu chez Saint-Laurent, où on mélange le produit avec des œuvres d'art. Donc on n'est plus simplement dans un enchaînement de produits, mais dans un lieu dans lequel on va avoir plusieurs services. Un lieu sur lequel on peut s'installer, on va pouvoir prendre une consommation, on va pouvoir bientôt faire des réservations de restaurants qui sont beaucoup plus chic, mais qui sont liés à des boutiques de prêt-à-porter comme chez Ralph Lauren, boulevard Saint-Germain. Donc on a un mix, pas simplement un lieu dans lequel on vient acheter, mais un lieu où on vient passer un bon moment.
Qu'est-ce qui, vous, Benjamin, vous a séduit dans ce métier ? Vous me le disiez avant qu'on commence cette interview, ça fait 7 ans et demi, je crois que vous êtes chez JLL, vous faisiez tout à fait autre chose auparavant. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Et en 7 ans et demi, les choses ont extrêmement évolué. Vous avez dû voir cette évolution.
Oui.
Bon, il y a eu le Covid au milieu, effectivement, mais tout cela a fait évoluer les choses.
Oui, alors c'est marrant parce que j'ai décidé de venir dans l'immobilier un peu au plus mauvais moment, puisque on était sur...
Enfin, il y a 7 ans et demi, c'était bien. C'était un bon moment.
C'était un moment où on atteignait le pic, puisque c'était... Alors moi, je ne m'en rendais pas compte au moment où je suis arrivé, mais c'était un moment où la tension à l'offre était telle qu'on arrivait sur un marché comme les Champs-Élysées ou Saint-Honoré, qui a pris d'une très importante cession. Puis le Covid est arrivé et a remis les choses en place. D'abord, ça a créé un appel d'air très important. et ça a remis le marché sur de la location pure. Mais on voit aujourd'hui qu'on revient d'ailleurs sur de la cession. Mais pour revenir à votre question, je viens initialement de la conception et de la fabrication des décors pour les magasins, ce qu'on appelle le visual merchandising, qui permet de scénariser l'offre depuis la vitrine et de permettre à des personnes qui passent devant une boutique, qui ne connaissent pas la marque par exemple, de découvrir d'un coup d'œil, tiens, c'est du prêt-à-porter, tiens, c'est un positionnement premium, tiens, ça me parle, ou alors je n'irai pas du tout dans cette boutique. Ça nous donne un levier de communication immédiat qui permet, s'il est bien géré, de générer du trafic dans le magasin.
Ouais.
Donc, j'étais dans une démarche où la création et la fabrication industrielle que je gérais pour énormément de groupes se concrétisait par de la visibilité et de l'attractivité du point de vente lui-même. Là, je suis passé, et j'ai trouvé ça intéressant dans le cadre d'une reconversion, d'abord chez JLL, puisque j'ai une sœur qui travaille depuis 30 ans. Désolé, hein, je donne des chiffres. Mais en l'occurrence, c'est un métier dont j'entendais énormément parler. Et puis la formule JLL, je la trouvais très intéressante. D'abord, il y a eu cette discussion sur « tu ne viens pas du cru, du brokerage pur, tu vas avoir un regard différent ». Donc on a eu une discussion avec Marie-Laure de Souza sur « on aimerait amener du conseil, mais en dehors du cadre classique ». Où on ne va pas réfléchir simplement en mètres carrés, mais en projet, en prenant en compte le positionnement des marques, en comprenant exactement quel était le territoire de Paris. On sait que chaque rue va avoir une identité propre et qu'elle va donner envie à des consommateurs de venir, pendant que d'autres vont correspondre à d'autres types de consommateurs. Et le projet chez JLL, et c'est ce qu'on fait dans l'équipe de Paris, j'ai Camille de Courson qui travaille dans mon équipe, qui est auparavant chez Gessina à la direction de l'asset retail. Auparavant, elle était chez Truffaut. J'ai Rudy Leloum qui est arrivé chez nous il y a un mois, qui était auparavant chez BNP et avant chez Kering au développement retail. Donc ils ont tous un ADN enseigne très fort et ils ont à cœur de réfléchir au projet avant de simplement regarder du cahier des charges au mètre carré, puisque ça c'est has-been, ça n'existe plus.
Alors justement, si on se projette un peu, on vient de parler un petit peu de, du passé, de votre parcours depuis 7 ans, mais nous sommes au siècle, qui est le rendez-vous donc, de l'immobilier commercial. Quelles sont, selon vous, les grandes tendances qui vont marquer le retail et l'immobilier commercial dans les 3 à 5 prochaines années? Comment vous voyez évoluer les choses, en fait?
Alors, je vais vous parler sur Paris, encore une fois.
Bien sûr.
Les sujets français, j'aurais du mal à m'exprimer avec autant de précision.
Même si Paris donne toujours la tendance un petit peu.
Ça donne la tendance, puisque ça reste la ville principale sur laquelle, par exemple, les primo-accédants viennent tester leur concept sur le territoire. Mm-hmm. En tout cas, en grande tendance sur Paris, ce que je note, c'est qu'on a toujours une tension à l'offre. On a toujours des marques qui recherchent des plus grands formats, mais moins nombreux. Elles sont dans une ingénierie immobilière, elles sont en train de réfléchir à remembrer leur parc. Et ce que je vois venir, c'est que, un, le commerce ne va pas disparaître. Je ne dis pas ça pour me rassurer, c'est réellement ce que je pense. On ne peut pas avoir un pure player qui vend des produits, entre guillemets, sans émotion et sans conseil. On a besoin. Alors peut-être que ce n'est pas du tout le même niveau d'implication si je vais acheter un tournevis qu'une robe de soirée, évidemment, mais déjà, le retail physique va rester. Mmh. Paris va rester une capitale majeure dans le tourisme, puisque c'est un musée, réellement.
C'est
un lieu chargé d'histoire. Mmh. Et que faire son shopping sur les Champs-Élysées, c'est autre chose que de le faire dans un mall. Voilà, on a des bâtiments qui ont été extrêmement restructurés, repensés pour avoir une expérience fluide pour les utilisateurs. Et ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un travail très important des bailleurs pour repenser leurs immeubles, pour les rendre beaucoup plus fluides pour les preneurs, que ce soit sur un type d'activité ou une autre, mais que l'expérience, en tout cas, va se prolonger. Et ce que je vois aussi durablement, peu importe la logique financière, c'est qu'il y a encore des enseignes, et il y en a beaucoup, sur des axes principaux de Paris, qui se disent, on est sur des loyers qui sont encore très élevés et qui n'ont pas été véritablement corrigés sur l'après-Covid, parce que la demande reste très forte. Et pour certains, sur les axes majeurs, comme les Champs-Élysées par exemple, ils iront toujours sur ces valeurs élevées, quitte à ne pas trouver la rentabilité des autres points de vente derrière. Parce que c'est une visibilité internationale. Prenez n'importe quel exemple. Vous arrivez pour la première fois sur les Champs-Élysées. Alors pour nous les Parisiens, ça nous fait rire, mais ça reste le lieu expérientiel par excellence quand on est étranger. Vous découvrez une marque sur l'avenue des Champs-Élysées, vous êtes marqué à vie dans votre esprit qu'il s'agit d'une marque qui compte et qui est désirable. Ça n'a pas de prix, ça.
Même encore aujourd'hui, parce que ça a quand même changé.
Ça a changé, mais ce pari est fait malgré tout par les marques, puisqu'elles nous disent, hein, sans nous communiquer les chiffres exacts, qu'on a une rentabilité moins importante, voire pas de rentabilité, mais que le bénéfice marketing est largement au rendez-vous, même s'il n'est pas quantifiable.
Alors le temps passe vite. En une minute, Benjamin, peut-être un mot sur vos objectifs JLL pour la suite, pour la fin de l'année, avec votre équipe qui se renouvelle et qui s'agrandit.
Oui, c'est vrai que l'équipe s'est agrandie. On attend encore de faire grandir l'équipe. Je dirais pour la fin de l'année, puisqu'on est quasiment sur la fin de l'année, entre guillemets.
On est à moitié de l'année, mais bon, oui. Effectivement, on pense maintenant sur la deuxième partie.
On pense sur la deuxième partie. Notre objectif, c'est de finaliser un dossier important qu'on a sur les Champs-Élysées, après en avoir en fait un en début d'année. On est revenu beaucoup plus sur le prime ces dernières années. Ouais. On a changé notre stratégie puisqu'on est un groupe international et que nos clients, on les suit sur plusieurs pays. Il était donc impossible, quand ils arrivaient sur Paris, de ne pas avoir le portefeuille pour leur permettre de trouver des emplacements de très haute valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui avec mon équipe. Voilà. Et avec aussi Cédric Ducarouge qui nous accompagne, c'est notre directeur France et qui nous chapeaute.
Un projet sur les Champs-Élysées, on ne peut pas savoir.
On ne peut pas savoir.
Exactement. Je tente, hein, j'essaye. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin Bocara, d'être venu au micro de Radio Immo, Radio Territoria, pour évoquer justement cette actualité de JLL et du retail leasing à Paris. Merci à vous.
Avec grand plaisir.
On continue bien sûr sur le siècle tout au long de cet après-midi avec d'autres intervenants à venir. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.